J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 39e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Brière dont le quatrième roman, Mauvais cœur, est paru le 7 février 2025 aux éditions Seuil. Audrey, bonsoir.
Bonsoir.
Vous préférez le mot autrice, romancière ou écrivaine lorsqu'on vous présente ?
Tout me convient. Après, autrice, j'aime bien comment ça sonne.
Bien. Quels étaient vos rapports, vous, à la lecture et à l'écriture lorsque vous étiez enfant puis adolescente ?
Quand j'étais enfant, moi j'ai toujours beaucoup aimé lire, c'est-à-dire que j'ai pas été une enfant très compliquée sur ce plan-là. J'ai toujours lu volontiers et avec plaisir. J'avais la chance d'être inscrite à la bibliothèque municipale quand j'étais en primaire, donc j'ai toujours fréquenté cette bibliothèque, lu pas mal de bouquins tout au long de mon enfance, et puis en fait j'ai continué très naturellement à l'adolescence. Il y a forcément eu une époque où je râlais un peu plus, notamment quand on parlait des lectures imposées à l'école. Mais globalement, j'ai toujours beaucoup lu. Et quant à l'écriture, bah moi, je me suis mise à écrire en fait pour des raisons un peu geek, puisque mon papa m'avait ramené un ordinateur portable. Donc à l'époque, c'était un des premiers ordinateurs portables. En fait, vraiment pour avoir le plaisir de faire joujou avec et de l'utiliser. À l'époque, il n'y avait que le traitement de texte dessus. Donc en fait, je me suis mis à écrire pour utiliser cet engin. Et puis après, j'ai continué évidemment par goût, quoi.
Vous aviez des autrices, des auteurs de chevet ?
Alors oui, j'ai eu quand je fréquentais cette fameuse bibliothèque municipale, j'ai lu, je pense, 20 fois les romans d'une autrice jeunesse qui s'appelle peut-être encore, je ne sais pas, Judy Blume. Je suspecte aujourd'hui que c'était un pseudo, mais je ne sais pas du tout quel est son véritable nom. J'ai lu beaucoup ces romans-là. Après, j'ai été une enfant bibliothèque rose, bibliothèque verte, beaucoup. J'ai lu les Alice, les Six Compagnons. Ça, c'était des livres que je lisais beaucoup quand j'étais très jeune.
Vous avez un parcours universitaire qui vous a permis de voyager, notamment aux États-Unis. Les livres n'étaient jamais loin.
Non, jamais. Après, quand j'étais aux États-Unis, je vous avoue que j'ai pas beaucoup lu, j'ai encore moins écrit. J'étais très occupée à découvrir le pays, à faire la fête. Donc, ça n'a pas été mon année la plus productive. Mais par contre, oui, ça n'a jamais, ça s'est jamais éloigné très loin.
Vous avez commencé par écrire des nouvelles. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire et non plus seulement de lire ?
Je pense que, alors, écrire, moi j'ai toujours beaucoup aimé la narration, raconter des histoires, même à l'école, hein, les rédactions, c'était un truc que j'étais assez douée. J'ai au bac de français, c'est à l'époque, hein, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais on avait le choix entre la dissertation, l'écriture de composition et le traitement de texte, je crois que je sais plus exactement ce que c'était. Moi j'ai pris l'écriture d'invention, quoi. Déjà à l'époque, c'était mon truc à moi. J'écrivais beaucoup quand j'étais ado, des tas de choses qui n'ont jamais abouti. Je sais même pas où ils sont aujourd'hui. Après, qu'est-ce qui m'a donné l'envie de le faire sérieusement ? Je pense que c'est un défi qu'on m'a lancé. On m'a dit, bah tiens, si tu le faisais pour de vrai, quoi. Si tu le faisais pour de vrai, si tu te lançais un petit défi d'écrire, voilà. Puis bon, quand on commence, on se dit, bah finalement, la nouvelle, c'est intéressant parce que c'est pas très long. C'est un texte qui est court, qui peut être écrit relativement rapidement. Donc c'est assez séduisant pour ça, pour se mettre à l'épreuve, quoi.
Avec le Récit des fous paru en 2010, vous voyagez à travers des portraits de femmes dont l'histoire se mêle à l'histoire avec un grand H, H comme historique. Peut-on rajouter pour vous le G, celui de géopolitique ? Vu votre parcours universitaire, il serait plus adapté ?
Alors je ne sais pas si ce serait plus adapté parce que ce recueil de nouvelles, il n'avait vraiment pas vocation à rapporter une réalité géopolitique qui aurait été véritable en fait à l'époque. Moi, c'était quelque chose que j'avais envie de faire, c'était différentes époques et différents lieux dans le monde. Donc oui, la géopolitique a une certaine dimension dans ce recueil. Maintenant, elle est complètement fantasmée, quoi. Hein. C'est pas du tout, j'ai pas fait de recherche à l'époque, j'avais pas fait de recherche spécifique sur le sujet.
Ces portraits de femmes qui se mêlent à l'histoire, c'est votre façon à vous d'exprimer ce féminisme et cet engagement de citoyenne que vous avez depuis longtemps ?
Peut-être, oui. Ça, c'est sûr que moi, j'aime bien raconter les femmes. J'aime bien mettre en avant ces parcours-là. Je trouve que c'est important. Je pense aussi qu'il y a aussi une peut-être paresse d'écriture qui est que, étant femme moi-même, c'est plus facile pour moi. Ça, je dois bien l'admettre. Maintenant, oui, souvent, c'est des chemins, c'est des parcours qui m'intéressent davantage.
Après avoir publié des nouvelles, vous vous lancez dans l'écriture d'un premier roman, La Noyade du Phénix, toujours une histoire de femme, Sacha Andrews en l'occurrence, un thriller gothique d'Ixit Babelio. Ce dernier dit à propos du livre et de l'héroïne, je cite, « à la recherche d'une histoire qui la sortira de l'anonymat et fera d'elle une romancière respectée ». En fait, Sacha, c'était vous à l'époque? Vous cherchiez à vous faire remarquer littérairement parlant?
Alors, je cherche toujours à me faire remarquer littérairement parlant. Maintenant, est-ce que ce personnage, c'était moi? Non, pas vraiment. Sacha, elle a une enfance, une histoire qui est très loin d'être celle que moi j'ai connue. Et il faut savoir, moi, je n'écris pas du tout, je m'inspire pas du tout de ma réalité quotidienne. C'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas quelque chose qui m'inspire. Au contraire, moi, j'ai plaisir à aller explorer des univers qui sont éloignés, en fait, de mon quotidien. Donc, non. Après, c'est vrai que cette partie-là, et bon, de toute façon, l'histoire de Sacha dans ce roman, sa motivation première, elle sert d'excuse à tout le reste. C'est vraiment sa quête, sa recherche qui va prendre forme et qui va lui révéler son histoire et l'histoire de sa famille. C'est ça qui est intéressant. Après, il lui fallait une motivation. Et cette motivation, je l'ai trouvée dans cette petite pirouette littéraire. Maintenant, non, ça n'a rien à voir avec moi.
En 2018 paraît La Fracture d'âme, toujours une femme et toujours britannique. Le style Audrey Brière est en train de prendre forme. Alors, comme dit si bien Babelio, une fois de plus, une galerie de personnages complexes qui explorent les rapports humains dans ce qu'ils ont de plus fascinant et pourtant de plus fragile. Leur habileté à communiquer et à vivre ensemble, c'est un peu votre marque de fabrique.
Peut-être, oui, c'est vrai que ce qui est intéressant dans les histoires, c'est alors l'action, le déroulé, l'intrigue, surtout quand, voilà, moi j'écris du polar, ça c'est passionnant, c'est fascinant, mais tout ça, ça n'existe pas sans les rapports qu'on nourrit avec nos congénères. Et puis parce que je ne m'inspire pas de mon quotidien et parce que c'est plus intéressant de lire des choses entre guillemets difficiles, bien sûr qu'on va explorer ce qui pose problème. Ce qui nous intrigue, nous, en tant qu'humains aussi, hein, c'est-à-dire que si tout va bien, si on s'entend avec tout le monde, bon, bah, il n'y a pas grand chose à raconter en fait. Maintenant, quand vous êtes en recherche, quand vous êtes en quête, quand vous voulez monter, développer quelque chose, vous allez choisir l'angle, un angle où, sur lequel il y a beaucoup à dire en fait. Il y a beaucoup à explorer, il y a beaucoup à décortiquer, il y a beaucoup à soigner aussi peut-être.
Vous avez écrit L'écriture des malvenus en 2021. Il a fallu attendre 2 ans pour le lire. Vous étiez à la recherche d'un éditeur, vous vouliez faire les choses bien?
Alors, pas vraiment. Non, c'est pas du tout ça. Moi, les malvenus, c'est... Alors, un coup de chance, je dirais pas forcément ça. Moi, j'ai rencontré mon éditrice avec La Fracture d'âme, que j'avais auto-édité, puisque avant les malvenus, j'étais en auto-édition. Et en fait, c'est mon éditrice, Caroline Lépée, qui a lu La Fracture d'âme et qui m'a dit « C'est un super roman, on va en faire quelque chose ». Donc, bon, bah, on avait travaillé un petit peu le texte. Et puis, en fait, ça s'est jamais fait, pour tout un tas de raisons. Que j'ai compris plus tard qui relevait en fait finalement du timing, hein. Tout vient à point, à qui c'est attendre, il y a un temps pour tout. C'était vraiment une histoire de timing et donc La Fracture d'âme n'a jamais trouvé preneur chez un éditeur. Par contre, quand j'ai fait lire ensuite Les Malvenus que je venais de terminer, eh bien là, ça a tout de suite matché. Il y a eu tout de suite une rencontre avec donc mon éditrice qui m'édite en numérique et un éditeur papier et c'est comme ça que je suis arrivée au Seuil.
Alors, le premier roman chez Seuil, Les Malvenus, donc, est paru le 3 février 2023. Il se passe en France en 1917. Alors pourquoi avoir choisi cette période? C'est toujours votre côté historique qui ressort?
Alors j'aime beaucoup l'histoire, ça c'est vrai. J'aime énormément l'histoire, les histoires et puis l'histoire avec un grand H. Moi, je voulais parler de la police scientifique. Mon truc, c'était, je voulais raconter une histoire qui aurait utilisé les débuts de la police scientifique, les premières méthodes pour résoudre l'enquête. J'avais pas envie de me lancer dans un truc avec de l'ADN, Internet ou puçage téléphonique ou que sais-je encore. Même si, voilà, c'est aussi passionnant à lire. Moi, c'est pas ce que j'avais envie de raconter. Donc, en fait, j'ai fait mes petits calculs en me disant, bah voilà, si j'ai un enquêteur qui est un adulte, hein, qui est un adulte mature d'une quarantaine d'années, si je veux qu'il puisse utiliser ces méthodes-là, qu'il ait été formé à peu près à ce moment-là, bon ben voilà, ça me fait arriver à la fin de la Première Guerre, sachant en plus que ça m'arrangeait d'avoir ce contexte très très restrictif en fait, très oppressant de la guerre.
Les Malvenus se déroulent en Bourgogne, pas loin de la Comble-à-Vaux avec un X, aujourd'hui réserve naturelle nationale, dont l'un des deux personnages principaux, Mathias, porte le nom de famille, Lavaux sans X. On n'est pas loin de Gevrey-Chambertin. Pourquoi un tel choix géographique?
Alors, donc Mathias, il s'appelle Mathias Lavaux parce qu'il a été trouvé dans les bois de Comble-à-Vaux Saint-Vix, qui se trouve en fait à côté du village de Montceny. Et le village de Montceny, que moi j'ai utilisé dans le roman et que j'ai renommé Haut de Cœur, il se trouve que à Montceny a vécu une partie de ma famille maternelle pendant très longtemps. Donc en fait, c'est un ancrage familial pour le coup.
Les deux personnages principaux de votre roman, Les Malvenus, donc Mathias Malvaux et Esther Lalouve, sont très atypiques, que ce soit par leur histoire, leur comportement, leur caractère et leurs accoutrements vestimentaires. On se croirait dans un film de Sergio Leone. Mathias et Esther sont presque des méchants, ils ne sont pas très sympathiques et agréables en tout cas.
Si vous le dites. Effectivement, c'est des personnages comme je les aime, c'est-à-dire qui ne sont pas lisses, qui ont du vécu, qui ont un tempérament, des personnages qu'on aime bien aussi. On aime bien ne pas trop les aimer, quoi. Et puis, je trouve ça intéressant que le lecteur s'attache progressivement à ces personnages. Que finalement, au début de sa lecture, il se dise « Oh là là, quand même, il est un peu pénible, quand même, elle est bizarre. » Et que quand il arrive à la fin du roman, il se rend compte qu'il est très attaché à ces personnages et qu'il est triste de les quitter. Je trouve que cet attachement progressif est vraiment intéressant.
Peut-on dire que votre personnage principal est Mathias Lavaux ? Esther a moins d'importance selon vous ?
Non. Ils en ont autant l'un que l'autre.
Je parlais d'accoutrement. Mathias Lavaux a une drôle de veste, un cache-poussière, un vêtement apparu au début du XXe siècle avec l'essor de l'industrie automobile, est devenu un accessoire récurrent dans les westerns, comme dans Il était une fois dans l'Ouest et Le Bon, la Brute et le Truand, parlait de Sergio Leone. Comme si vous aviez eu envie d'écrire un western à la française, mais période début du XXe siècle, style Il était une fois la Révolution.
Il est vrai qu'en fait, les vêtements sont récurrents, en fait, les pièces maîtresses de leurs vêtements qui sont récurrents dans les romans. L'idée m'est venue, et ça, vous avez raison de parler de Sergio Leone, parce que l'idée m'est venue, en fait, en regardant Il était une fois dans l'Ouest. Et en fait, ce qui m'a donné cette idée, c'est pas tellement les accoutrements cow-boys, c'est plus la musique. C'était que chaque personnage avait sa musique, et que quelque part, dès qu'on voit une image, avant même que le personnage arrive à l'écran, on sait qui c'est qui va apparaître parce qu'il y a l'air qui lui correspond. Et j'aimais bien cette caractéristique très propre à chaque personnage. Et je me suis dit, moi j'aimerais aussi qu'on soit un peu dans cette dynamique, un peu comme les livres pour enfants en fait. Vous lisez un livre pour enfants ou une BD ou quoi, bon ben voilà, Astérix et Obélix, ils sont toujours habillés pareil. Et en fait, ça fait partie de leur identité de personnage. Moi, j'écris pour les adultes, c'est un roman, donc il n'y a pas d'image associée. Mais ça me plaisait d'avoir ces petits éléments récurrents, reconnaissable, qui participe à la construction de l'identité de mes personnages.
Le duo Mathias-Esther fait penser à ces séries télé des années 60-70, je pense au Mystère de l'Ouest, où il y a un personnage principal et un qui l'est juste un peu moins, mais qui est indissociable du duo. Cette notion de dualité est importante pour vous ? Vous en avez marre de ce personnage principal et féminin de vos deux premiers romans ?
Non. Alors non, j'en avais pas marre. C'est pas exclu que je recommence dans l'avenir. Après, ça s'est imposé un peu, enfin pas malgré moi parce que je l'ai accueilli tout à fait volontiers, mais c'est pas quelque chose que j'ai forcément calculé. Moi, j'en suis venue à les trouver tous les deux sur mon chemin et à me dire bah oui, voilà, ce sera, ils seront deux quoi. C'était pas un choix vraiment conscient de ma part.
Mathias Lavaux est un policier un peu atypique, hein, il ne supporte pas la vue du sang. Ce n'est pas très pratique, hein, pour résoudre des enquêtes avec des meurtres comme c'est le cas dans vos deux derniers romans.
Oui, effectivement. Alors, il supporte pas la... voilà, ça c'est pareil, c'est voilà, j'aime les personnages très singuliers. Je voulais aussi un policier qui soit pas un super-héros, qui comprenne pas tout du premier coup, qui soit pas infaillible, qui prenne des coups, qui ait des bosses. Et je me suis dit, mais ce serait rigolo d'avoir quelqu'un comme ça qui est très performant dans son métier, mais qui a un handicap majeur. Et puis voilà, le contraste, c'est quand même un grand gaillard assez balèze. Finalement, quand il voit du sang, il est mis, quoi. Et comme je voulais qu'il soit quand même très atypique, qu'il fallait quand même qu'il ait quelque chose pour lui, j'ai compensé cette caractéristique par sa mémoire extraordinaire.
Dans Les Malvenus, vous avez créé une ambiance très sombre tant au niveau du climat, de la météo que des décors. La couleur du polar est donnée, hein, c'est le noir qui prédomine.
Oui. Après, l'ambiance des malvenus, elle était destinée à renforcer le côté de l'isolement, en fait. Ils sont dans ce village, ils sont beaucoup dehors. Hein, il y a beaucoup de passages du roman où ils sont dehors dans la neige. Donc, ils sont en extérieur, mais ils sont quand même enfermés. C'est ce climat très très oppressif où, en fait, on ne sait jamais trop ce qui nous attend, on ne sait jamais trop ce qui va se passer, on ne sait jamais trop à quel moment de la journée on est, ce qui m'a permis, en fait, aussi d'instaurer cette
sphère d'incertitude.
Les décors et les personnages dans Les Malvenus et Mauvais Cœur sont très noirs et la météo est rarement clémente. Hein. Il pleut, il neige, il fait froid. Les éclaircies, même humaines, ne sont pas légion.
Alors ça, c'est encore très personnel. Moi, je trouve ça plus facile d'écrire un roman noir où il se passe des choses très tristes et horribles quand il fait moche. Mais ça, vraiment, c'est pas une, c'est pas une vérité absolue. D'ailleurs, voilà, j'essaie de faire évoluer ça dans mon prochain livre où ça sera pas, en plein cœur de l'histoire, ne se passera pas en plein cœur de l'hiver. Mais oui, si vous voulez, moi, ce que j'aime, c'est que quand dans une histoire, dans un roman, tous les éléments sont une brique du grand tout. Les personnages sont ceci ou cela. Le lieu est extrêmement important et participe en fait à sa pleine mesure à l'intrigue, à l'évolution de l'histoire. Et le climat, c'est quelque part, c'est pareil, c'est une autre brique de cette atmosphère qu'on essaie d'installer.
Lorsque vous avez écrit Les Malvenus, vous aviez en tête de créer des personnages principaux récurrents, en l'occurrence Mathias Malvaux et Esther Louve.
Eh bien non, pas du tout. J'ai écrit Les Malvenus comme un one-shot et c'est quand il est sorti, beaucoup de lecteurs et de lectrices m'ont dit « Mais du coup, est-ce qu'on va les retrouver ?» Au départ, j'avais tendance à dire « Bah non, pas forcément, moi j'ai d'autres idées, j'ai commencé à travailler sur autre chose. » Et puis en fait, on m'en a tellement dit du bien et on m'a tellement sollicité avec cette question que ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête et que je me suis dit « Mais en fait, pourquoi pas ?» Et puis en parlant avec mon éditrice, elle m'a dit « Bah écoute, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si t'as envie de continuer leur histoire, fais-le, n'hésite pas. » Donc voilà.
On retrouve Mathias et Esther dans Mauvais Cœur, votre nouveau roman paru le 7 février 2025, toujours chez Seuil. L'histoire se passe en grande partie dans un lieu un peu particulier, le Familistère de Guise, qui accueille une communauté ouvrière unique fondée sur une utopie humaniste, celle de Jean-Baptiste André Godin. Alors comment avez-vous découvert, vous, ce lieu pour le moins original et pourquoi l'avoir choisi loin de la Bourgogne, cher à Mathias et Esther ?
Eh bien, parce que un jour, je cherchais le théâtre, en fait, de mon deuxième roman. J'avais pris la décision de remettre en scène Mathias et Esther. Et puis, bon, bah, en réfléchissant, je me suis dit, mais ce village de Haute-Cœur, qui m'a tellement occupée, qui m'a tellement séduit, qui est cher à mon cœur pour toujours, je me voyais pas continuer de les faire évoluer à cet endroit. J'avais l'impression d'avoir un peu épuisé le jus, quoi. Donc, je me suis mis à chercher un ailleurs, sachant que je me suis dit, bah oui, après tout, pourquoi pas, ils sont mobiles, hein. On est à une époque où c'était pas forcément la norme, mais où c'était complètement possible. Donc, bon, voilà, je me suis mis à chercher un endroit. Et puis, un jour, on m'a conseillé d'aller, on m'a parlé du Familistère, quelqu'un qui l'avait visité, qui m'a conseillé d'aller le visiter, ce que j'ai fait, ni une ni deux, et je suis tombée amoureuse de cet endroit, et je me suis dit, mais oui, que ce soit d'un point de vue architecte, d'un point de vue social et d'un point de vue de cette utopie humaniste réalisée, je me suis dit, bah oui, c'est parfait, ce sera ça le théâtre de mon nouveau bouquin.
Un mauvais cœur est le nom donné aux personnes dépourvues de bonté et de compassion. Cette locution nominale pourrait s'adresser à Mathias et Esther ?
Non, pas du tout. Mathias et Esther ont bon cœur. Ils le cachent bien et ils se fichent pas mal de ce que peuvent penser les autres, en l'occurrence. Mais ce sont des gens, ce sont des personnages très humains.
Dans Mauvais Cœur, on retrouve Mathias 5 ans après ses aventures dans Les Malvenus. On fait appel à lui pour trouver le meurtrier d'une institutrice du Familistère. Il ne l'a pas changé, hein, ni de moto, ni d'habit, ni de caractère. En plus, il ne comprend pas bien l'esprit de ce Familistère et de cette communauté. C'est presque étonnant qu'on l'ait choisi, lui, pour mener l'enquête.
Oui, mais il est très bon. C'est un excellent policier et qui arrive à ses fins et qui trouve. Donc, bien sûr qu'on l'a choisi. Et oui, on l'a choisi pour son talent. Pas parce qu'il est sympa, ça c'est sûr.
Mathias fait penser à ce pauvre cow-boy solitaire et toujours aussi loin de chez lui. Sa moto pourrait très bien être Jolly Jumper, il pourrait être Lucky Luke français, Mathias.
Ah bah oui, il pourrait, je pense qu'on peut faire ce genre de parallèle. Oui, c'est vrai que c'est un homme plutôt solitaire. Après, il est pas, il est loin de chez lui sans être loin, hein, puisque voilà, il n'a pas rompu son port d'attache. Il est toujours lié à sa Bourgogne et son village, et puis aux personnes qui l'ont élevé. Donc, puis il évolue aussi professionnellement. C'est aussi parce qu'il rejoint les brigades mobiles qu'il est amené finalement à de nouvelles affectations.
Malgré la noirceur de vos personnages et des décors, il y a beaucoup d'humour dans vos romans. C'est votre façon à vous de détendre l'atmosphère, d'apporter un peu de lumière.
Ah oui, 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 c'est hyper important. Alors après, j'aime bien moi l'humour un peu cynique, un peu sarcastique, un peu noir comme ça. Mais oui, c'est important. Et puis ça fait partie de la vie en fait. Hein. C'est-à-dire que moi j'aime assez l'idée. On raconte des histoires de fiction avec des personnages de fiction et c'est très bien. Moi c'est ce qui me plaît beaucoup. Mais c'est sûr que l'amour, le rire, la tristesse, le deuil, tout ça c'est des choses qui sont profondément humaines, qui jalonnent la vie de tout un chacun et que j'aime bien, qu'on retrouve. plus ou moins petite dose ou grosse dose, ça dépend. Mais oui, oui, c'est vachement important. Et puis même pour le lecteur, hein, ça fait des respirations. Et c'est important, à mon sens, que le lecteur y ressente plein d'émotions différentes quand il lit. Il est triste, il est fâché, il est content, il rigole, il est touché, il est effrayé. Moi, je suis jamais autant touchée que quand on me dit, voilà, je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel des émotions et j'adore ça.
Alors, Mauvais Cœur a fait l'objet d'un article dans le magazine économique Alternative Économique, connu et reconnu pour son travail éditorial sérieux, juste et loin de l'esprit des soi-disant magazines économiques. C'est une bien belle reconnaissance de votre travail et ça change des médias un peu traditionnels.
Bah, en tout cas, c'est sûr que ça fait plaisir. Mauvais Cœur n'a pas eu une presse, il n'y a pas eu énormément de presse. Il y a eu quelques articles qui étaient très, très agréables à lire, je ne vous le cache pas. Oui, après, que ce soit dans les médias ou que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit des lecteurs qui vont se contenter de m'envoyer un petit mot à moi en privé, savoir que le livre a plu, que le livre a touché, c'est toujours précieux en fait. Quelle que soit la personne qui me fasse passer ce message, encore une fois, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans mes messages privés à moi, après, ce qui est super avec des articles comme Alternative Économique, c'est qu'on se dit, voilà, ces gens-là, ils mettent leur opinion favorable au service du plus grand nombre, au service de la notoriété du livre, et ça, moi, j'en suis effectivement très reconnaissante aussi. Oui, oui, ça fait très, très plaisir. Et puis, ouais, c'est une reconnaissance, on se dit, bah, chouette, chouette, il y a quand même des noms qui sont reconnus, qui parlent du livre en bien, ça donne confiance, ça donne envie de continuer, c'est sûr.
Justement, y aura-t-il une suite aux aventures d'Esther et de Mathias ?
Oui, il y aura une suite. Une suite et une fin.
Bien, il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Audrey, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Alors, mon dernier coup de cœur littéraire, c'est un livre de mon collègue et ami Nicolas Leclerc, qui est son premier roman, qui s'appelle Le Manteau de Neige. C'est le dernier de lui que j'ai lu, parce que je les avais tous lus avant, et c'est mon dernier coup de cœur littéraire.
Bien, côté proposition de la quinzaine, notons le livre de Didier Raoult et Michel Drancourt, Les Cold Cases de l'Histoire, aux éditions Michel Lafon, le polar de Nadine Mousselet, Meurtre cousu main, aux éditions XO, le roman de Lilgia Sigurdardottir, Rouge comme la mer, aux éditions Point, le polar de Victor Gilbert, La trahison de Sunset Park, aux éditions Flammarion, le roman de Anne-Laure Kerr, Les doigts coupés, aux éditions Point, le polar de Q Xialong, Visa pour Shanghai, aux éditions Point, le thriller de Steve Mosby, Derniers instants, aux éditions Point, le livre de Michel Guéner, La visite, aux éditions Grasset, le thriller de Daniel Trussoni, La boîte du dragon, aux éditions Robert Laffont, le polar de Nicolas Lebel, La ruche, aux éditions du Masque, le thriller de Joe Nesbo, Les maîtres du domaine, aux éditions Gallimard, le polar historique de Céline Guisse, Jules Verne et le gentilhomme cambrioleur, aux éditions Fayard, le livre d'Olivier Legrain, Sauver la formation de l'emprise des milliardaires, aux éditions Payot et Rivage, le polar d'Anouk Schutterberg, In Extremis, aux éditions Récamier, le Cozy Crime de Niall Charles, Bigoudi et Petites Enquêtes, Panique chez les Petits Vieux, aux éditions Archipoche, le roman de Mireille Calmel, Le Masque et la Lame, aux éditions XO, le livre de Florent Baracco, La Route du Tube, aux éditions Perrin, le polar de Magali Collet, Martinique Dry, aux éditions Moby Dick, et le livre de M.E. Aubry Brienne et Eman Abdelhadi, Tout pour le monde, aux éditions Argile. Et bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Audrey Brière, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Ben, merci beaucoup, merci de m'avoir invité, merci pour ce moment d'échange.
Rappelons que votre quatrième roman, Mauvais Cœur, est paru le 7 février 2025 aux éditions Seuil. On peut se procurer partout, sans oublier vos trois autres romans.
Alors non, les livres auto-édités, vous ne les trouvez plus. Par contre, les deux autres, oui, vous pouvez les trouver partout.
Malvenu et Mauvais Cœur. On peut suivre votre actualité sur Internet via les inévitables réseaux sociaux ?
Tout à fait.
Retour le jeudi 11 septembre 2025 à partir de 18h30 avec Isabelle Villain. Vous connaissez ?
Je connais.
Voilà.
Très, très, très belle autrice aussi.
Eh bien, Audrey, bonne chance pour la suite de vos aventures d'écrivaine.
Merci beaucoup.
Voilà, bonne séance dédicace et puis à bientôt sur Radio B.
À très bientôt, merci beaucoup.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman.